Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Vous venez d'entendre Élodie Calac, orange comme un orage, alerte à la pluie et aux inondations. Dans les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et l'Aude si durement touchés l'année dernière. Des pompiers arrivent en renfort, des mesures de prévention dès ce matin. Nous allons dans la région dans un instant. Le Big Bang à la mode François Hollande. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
L'ancien président n'appelle pas à une nouvelle constitution, mais à des changements assez radicaux dans notre régime politique.
Oui, plus de Premier ministre, un président élu pour 6 ans, des parlementaires pour 4 seulement. Dans un livre, Répondre à la crise démocratique, François Hollande expose sa nouvelle version de la 5e République, assez proche du système présidentiel à l'américaine.
A tout à l'heure pour les détails, Emmanuel Macron lui est à Mayotte, nouveau jalon pour tenir un discours de fermeté sur l'immigration. Les agriculteurs dans la rue, sentiment d'être mal aimés à l'heure où les pesticides sont de plus en plus critiqués, ils en appellent au président.
Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et il faut que le chef de l'État le dise une bonne fois pour toutes que l'agriculture de France, l'agriculture des agriculteurs français est quelque chose de noble.
Dans l'actualité encore après le Chili, la Bolivie bascule dans la violence. Les manifestants accusent Evo Morales d'avoir volé sa victoire à la présidentielle dimanche. Erdogan est chez Poutine, le président turc en Russie. Au menu, la guerre en Syrie. La trêve va-t-elle prendre fin ce soir? Une large page santé dans ce journal. La grève des laboratoires d'analyse, marre de faire des économies. Des internes dans les urgences pédiatriques en grande banlieue. On était au bord de la crise sanitaire. Et puis la chronique santé de Daniel Messager sur les progrès fulgurants de la radiologie. À 13h30, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le menu?
On fait connaissance avec la militante écologiste indienne Vandana Shiva et publie un livre 1% dans lequel elle dénonce la domination du club des milliardaires sur la planète. Vous pouvez lui poser toutes vos questions dès maintenant pour dialoguer en direct avec elle.
01 45 24 7000. Questions maintenant. Émission à 13h30. Avant cela, on parlera football. Le PSG à Bruges ce soir pour une 3e victoire en Ligue des Champions. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Il y a quelques jours, nous étions retournés en reportage dans l'Aude, un an après les terribles inondations d'octobre 2018. Eh bien, l'Aude tremble à nouveau. Alerte orange, alerte aux orages, aux pluies, aux inondations dans l'Aude, mais aussi les Pyrénées-Orientales et l'Hérault. Bonjour Stéphane Iglesis.
Bonjour Bruno et bonjour à tous.
En direct de Perpignan, Stéphane, dans les Pyrénées-Orientales, où il pleut sans discontinuer depuis ce matin, on l'entend derrière vous. Hein. Alors le point positif, c'est que des leçons sont tirées tout de même des épisodes précédents. Le préfet a présenté ce matin une série de mesures de prévention. On donne dans la prévention. Hein.
Oui, tout à fait. En fait, il s'agit plus de prévention et de précaution. Une mer agitée à fort tout de même est prévue, des vents de 80 à 100 km/h, des risques potentiels d'éboulement, voire de grêle par endroit. Les services de secours sont en alerte et dans l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, les maires ont été prévenus. Philippe Chopin, préfet des Pyrénées-Orientales.
Dites à vos administrés d'éviter les déplacements inutiles, dites à vos administrés d'éviter d'aller dans les caves, enfin tous les lieux qui peuvent être inondés, d'aller en bord de mer. On a fait fermer tous les guets départementaux, on est en train de faire fermer, et je pense qu'à l'heure où je vous parle, c'est fait, tous les guets communaux, et donc le bon sens, c'est de dire prenez pas votre voiture, si une route est barrée, faites pas comme certains font, en disant oh, je ne peux passer parce que j'ai une grosse voiture ou parce que j'ai l'habitude. 30 cm d'eau, une voiture peut être emportée.
Jean-Pierre Salmarou est directeur du SDIS 66 et le patron des pompiers des Pyrénées-Orientales. Il décrit les zones à risque potentiel.
Alors avec les cumuls, ce qu'on peut redouter, c'est que d'un, il va y avoir du ruissellement important, puisqu'il va y avoir des moments, les précipitations vont être extrêmement fortes, de l'ordre de 20 mm par heure, avec plusieurs heures d'affilée. Donc ça veut dire un ruissellement qui va s'opérer. Nous avons un avantage, c'est que les périodes de sécheresse que nous avons eues ont fait qu'on a des rivières extrêmement basses, et donc de ce fait ne sont pas chargées.
Pour l'heure, les 250 pompiers sont prêts à intervenir et le centre opérationnel qui réunit préfets, gendarmes, policiers, pompiers est activé depuis ce matin 10h, par précaution pour l'instant.
Stéphane Iglesis en direct de Perpignan pour France Inter. L'alerte orange est en vigueur jusqu'à demain soir dans les 3 départements. C'est un épisode méditerranéen. Intensification attendue la nuit prochaine avec des risques de crues. On retrouve Élodie Calac à la fin de ce journal. Des risques de trombe d'eau en Occitanie. Un grand soleil à Mayotte où Emmanuel Macron a atterri ce matin. Le président et le gouvernement veulent mettre le sujet de l'immigration en grosses lettres sur l'agenda avec un sous-titre, fermeté. Alors après le débat au Parlement à Paris, un cas pratique dans un département français très particulier. Mayotte, l'océan Indien, au nord de Madagascar, 256 000 habitants, la moitié sont étrangers. Et l'immigration clandestine venue des Comores à côté y est massive. Déjà 22 000 reconduites à la frontière depuis le début de l'année selon l'Elysée. L'objectif c'est 25 000 avant le 31 décembre. Mayotte, donc première étape d'un voyage du président outre-mer. La France c'est la sécurité, dit Emmanuel Macron. Mais il a plus de succès quand il aborde un tout autre sujet. Envoyé spécial de France Inter, Cyril Graziani.
Dans le vif du sujet, à peine le pied posé sur Mayotte qu'Emmanuel Macron embarque sur un des intercepteurs chargés de lutter contre l'immigration clandestine, notamment les Kwasa Kwasa, ces bateaux de fortune comoriens qui traversent l'océan pour rejoindre l'île. Arrivé sur le port de Mamoudzou, des femmes mahoraises en tenue traditionnelle à fleurs jouent du bioui, certaines sur le visage ont un masque de beauté à base de bois de santal. À la tribune, entouré par ses ministres, notamment Christophe Castaner, Emmanuel Macron tente de rassurer.
La sécurité sera au rendez-vous en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Et soyez rassurés, la France, c'est la sécurité.
La France, c'est la sécurité. Les applaudissements sont peu nourris tant la population est à cran sur cette question. Le chef de l'État rencontre plus de succès quand il fait une promesse ici très attendue.
La piste pour l'aéroport, la piste quand je suis parti de Paris, on m'a dit pas besoin. Quand je suis arrivé à Mayotte, j'ai compris que la piste était courte parce qu'on freine beaucoup. Donc oui, on le fera. Maoré, Nafaranza.
Monsieur, ça veut dire quoi, Maoré?
Ça veut dire que la France et Mayotte jusqu'au bout. Voilà.
Qu'est-ce que vous en avez pensé du discours?
Écoute, il y a eu beaucoup de promesses, donc je pense que si les promesses tiennent debout, je pense que pour les Maorés, ils seront quand même contents. Bon, ils aimeraient bien que ça soit concret, quoi.
À Mamoudzou, Cyril Graziani, France Inter.
Et après Mayotte, autre département français de l'océan Indien, Emmanuel Macron à La Réunion à partir de demain. Climat social orageux. Un appel à la grève générale est lancé à l'occasion de la visite du président. Et pendant qu'Emmanuel Macron parle d'immigration, son prédécesseur propose de changer, et pas qu'un peu, la Constitution. Karine Bécard, comme promis, vous êtes avec nous. François Hollande publie un nouveau livre, Répondre à la crise démocratique, et il plaide ni plus ni moins pour la suppression du poste de Premier ministre.
Exactement. En fait, François Hollande plaide pour un régime présidentiel, ce qui signifie effectivement la suppression d'une des deux têtes de l'exécutif, donc du Premier ministre. Et ce qui signifie aussi un tout autre équilibre entre le Parlement et le Président. Les assemblées dans un système présidentiel à l'américaine décident de leur propre ordre du jour et globalement ne se font rien imposer, c'est-à-dire pas de dissolution, pas de vote par ordonnance, ni de vote bloqué, c'est-à-dire obligé. Mais il y a, dans les propositions de François Hollande, quelques incohérences. Parce qu'il oublie par exemple que la France n'est pas comme les États-Unis, elle n'est pas un pays fédéral avec des contre-pouvoirs importants très forts dans les différents États fédérés. Et puis, il pousse à la mise en place d'un mandat de 6 ans pour le président, c'est 4 ans dans le vrai régime présidentiel à l'américaine. Et puis surtout, il propose des parlementaires élus pour 4 ans seulement. Autrement dit, ce serait le retour de la cohabitation. Pas sûr que ce soit l'idéal pour la stabilité de nos institutions. En réalité, régulièrement, ce débat sur la possibilité d'un régime présidentiel revient en France, mais la France en a déjà connu un il y a, c'est vrai, fort longtemps, en 1848, et cela s'est terminé par un coup d'État.
Un régime présidentiel en France, l'une des figures de l'opposition, Bruno Retailleau, réagit plutôt positivement. C'est vraiment à étudier. On retrouverait sans doute une meilleure capacité à séparer les pouvoirs. Merci Karine Bécard. Les tarifs réglementés du gaz vont augmenter plus 3% le mois prochain. Confirmation ce matin de la Commission de régulation de l'énergie. Comment évacuer 160 fûts abîmés d'une usine chimique incendiée il y a presque un mois? L'exercice commence aujourd'hui à Rouen, usine Lubrizol. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Comment fait-on? Eh bien, on met le chantier sous cloche.
Oui, chantier préparé ces derniers jours dans une zone où la circulation reste interdite. Chantier installé par Eiffage qui a recouvert le stock de ces fûts à évacuer d'une grande bâche étanche, sorte de bulle sous vide de 1000 mètres carrés qui permet un triple niveau de protection, explique Guillaume Goyer, manager haute sécurité environnementale sur ce site de Lubrizol à Rouen.
L'air ne s'échappe pas de cette tente-là. À l'intérieur de cette tente-là, on a une deuxième tente dans laquelle les manipulations de séparation des liquides et des emballages sera réalisée. Donc c'est un deuxième niveau de protection. Et on aura ce qu'on appelle des brumisateurs qui vont émettre des neutralisants d'odeur à la fois à l'intérieur des tentes et à l'extérieur pour assurer un troisième niveau de protection.
Guillaume Goyer avec Rudy Rupin de France Bleu Normandie. Alors à l'intérieur, 13 sans-fûts de 200 kilos chacun, dont 160 contiennent des antioxydants. Ce sont ces produits-là qui peuvent dégager des odeurs. Pour traiter tous ces contenants, un robot commandé à distance par des spécialistes qui vont trier les fûts vides d'un côté, de l'autre les fûts pleins qu'il faudra vider dans des citernes, matière solide et liquide ensuite transportée via camion benne étanche ou camion citerne vers l'usine Célibex de Sandouville près du Havre qui était déjà sur le pont après l'incendie. Durée de l'opération environ 2 mois.
Et le PDG de Lubrizol est entendu cet après-midi par les sénateurs, ce matin par les députés à Paris. Il réaffirme que selon lui l'incendie s'est déclenché à l'extérieur de ces installations. Les agriculteurs ont encore et toujours le sentiment d'être mal aimés. Au fil des derniers mois, des dizaines de maires ont pris des arrêtés anti-pesticides. Beaucoup de consommateurs se tournent vers le bio ou les productions issues de l'agriculture raisonnée. Et les critiques sur le modèle de production dans les exploitations animent régulièrement le débat public. Pour une partie des agriculteurs, tout cela dessine un agri-bashing, une stigmatisation. Alors ils manifestent à nouveau aujourd'hui dans toute la France. À Vesoul, par exemple, les manifestants à la rencontre de la population. Écoutez Emmanuel Abichère de la FDSEA Haute-Saône.
Le fait de lancer une consultation publique sur l'utilisation des produits phytosanitaires, le fait qu'on sente de plus en plus et que personne ne dise rien, notamment par rapport à tout ce qu'on fait, tout ce que, il n'y a pas vraiment de communication positive de la part de, sur notre métier d'agriculteur. Alors nous, on le fait à notre niveau, mais il faudrait quand même que l'État aussi et que les pouvoirs publics reprennent tout ce qui se fait dans les exploitations, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, la France est le pays où la sécurité alimentaire est la plus rassurante au monde, et que là-dessus, le président de la République s'apprête, même si c'est pas fait, c'est sur la table quand même à signer les accords du Mercosur, les accords du CETA, c'est déjà signé. Et dans le même temps, on nous demande de monter en gamme. Donc quelque chose, il y a un discours qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il faut que le chef de l'État le dise une bonne fois pour toutes, que l'agriculture de France, l'agriculture des agriculteurs français, est quelque chose de noble.
Et des rassemblements ce matin devant les préfectures des opérations Escargot sur l'A9 près de Nîmes, sous le tunnel de Toulon, A89 près de Clermont, centre-ville de Bourges, préfecture de Dijon. Les propos d'Emmanuel Abichère étaient recueillis par Jean-François Hernandez à Vesoul. Ce que les agriculteurs, on l'a entendu, critiquent vertement aussi, ce sont les traités de libre-échange. Cette critique de la mondialisation, des excès, du libéralisme, elle rallie de plus en plus de suffrages. Un grand patron était ce matin l'invité de France Inter, Jean-Dominique Sénard, le président de Renault-Nissan. Qu'en dit-il ?
Et une chose qui me paraît certaine, c'est que c'est le capitalisme qui, lui, peut être éventuellement amélioré parce qu'il est trop contesté aujourd'hui. Vous le sentez à travers les manifestations des uns et des autres, appelez ça les gilets jaunes, appelez ça les populistes, appelez ça tout ce que vous voudrez, c'est difficile à définir. Derrière cela, il y a le fait que le capitalisme peut être, en quelque sorte, contesté. Je pense qu'il y a quelques dérives du capitalisme, je l'ai exprimé d'ailleurs de façon très publique, et pourtant je suis un parfait représentant du capitalisme,
mais
je peux
oui,
vous dire.
C'est ce que
simplement,
vous
dire. Le capitalisme responsable doit arriver. D'ailleurs, ça tombe bien, je préside les entretiens de Royaumont à la fin du mois de novembre, où le thème principal sera le capitalisme peut-il être responsable.
Et parmi les annonces faites par Jean-Dominique Senard ce matin au micro de France Inter, bientôt une Kangoo hydrogène. Cette interview, elle est à réécouter sur franceinter.fr.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
La vérité oblige à dire que ce ne sont pas les États-Unis, ni la France, l'Europe ou l'ONU qui ont les clés de la maison aujourd'hui en Syrie. C'est la Russie et la Turquie qui peuvent bloquer ou débloquer la situation. Nouvel épisode de guerre, vous le savez, lancé par la Turquie pour chasser les Kurdes du nord de la Syrie depuis le 9 octobre. Une trêve tout de même depuis jeudi dernier. L'échéance de ce cessez-le-feu, c'est ce soir 21h. Et dans ce contexte, à Sotchi, en Russie, sur les bords de la mer Noire, une rencontre Poutine-Erdogan. Bonjour Éric Biegala.
Bonjour Bruno.
Éric, vous êtes en direct d'Istanbul avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Le président Erdogan est dans l'avion au moment où on se parle. Que va-t-il négocier en Russie ?
Eh bien, à Sotchi, le président turc tentera sans doute d'obtenir de Vladimir Poutine une extension de sa zone de sécurité que ses troupes contrôlent dorénavant dans le nord syrien. C'est avec le président russe, en effet, que l'homme fort de la Turquie doit négocier. Sur les franges de la zone de sécurité de 120 km prise aux Kurdes, campent dorénavant non plus seulement des Kurdes, mais aussi des troupes du régime syrien et des soldats russes. Alors, difficile d'imaginer que Recep Tayyip Erdogan choisira de les affronter. Il devrait plutôt tenter d'obtenir de Vladimir Vladimir Poutine par la négociation, une sorte d'extension de sa zone de sécurité ou au moins quelques garanties, celle par exemple que les combattants kurdes des YPG évacuent le reste de la zone frontière. Alors sur le papier ça paraît un petit peu difficile à envisager, à moins de trouver une solution préservant les apparences, que ces Kurdes par exemple ne fondent leurs unités formellement dans l'armée syrienne, ce qui les rendrait beaucoup moins visibles et ne laisserait plus sur la frontière Turquie-Syrie que l'armée du régime. Ce serait là une magnifique victoire pour Bachar al-Assad.
Merci Eric Bigala. En direct d'Istanbul, hier Emmanuel Macron proposait une prolongation du cessez-le-feu, refus clair et net du président turc Erdogan. Au Liban, les banques sont toujours fermées, en tout cas beaucoup d'entre elles, et de nouveaux barrages sont dressés dans les rues de Beyrouth. Les mesures présentées hier par le Premier ministre Saad Hariri ne suffisent pas à calmer la colère contre des politiques jugées corrompues et incapables. Le climat à l'orage également en Irak, ce bilan donné par l'agence France Presse après une semaine de contestations anti-gouvernement. 157 morts. Et puis l'Amérique du Sud, après le Chili, toujours largement sous le régime de l'état d'urgence, le climat se dégrade brusquement en Bolivie. Un appel à la grève illimitée aujourd'hui, des incidents hier dans tout le pays. Beaucoup de manifestants, Valérie Crova, ont le sentiment de s'être fait voler la présidentielle par le sortant Evo Morales.
C'est le revirement inexpliqué des autorités électorales qui a mis le feu aux poudres. Un peu partout en Bolivie, des locaux de l'organe électoral plurinational contrôlé par le parti d'Evo Morales ont été attaqués. Le peuple uni ne sera jamais vaincu, crient les manifestants qui incendient un local. À La Paz, les partisans d'Evo Morales, eux, célèbrent déjà la victoire de leur candidat, comme s'il n'y avait plus aucun doute sur les résultats qui donnent le président sortant quasiment vainqueur. Avant-hier, le décompte des voix a été brusquement interrompu sans aucune explication, avant de reprendre hier et de donner Evo Morales, au pouvoir depuis 13 ans, largement en tête, avec plus de 46% des voix contre 36% pour le centriste Carlos Mesa. Un écart de 10% qui permettrait au président Morales de s'imposer dès le premier tour et de remporter ainsi son quatrième mandat. Son rival, Carlos Mesa, qui a fait campagne sur le respect de la démocratie, a dénoncé une manipulation et appelé à la mobilisation citoyenne jusqu'à ce que les résultats définitifs soient proclamés.
À Londres, Boris Johnson va-t-il gagner la course contre la montre et aboutir au Brexit avant la fin du mois? La bataille parlementaire continue aujourd'hui. Mais éloignons-nous du Parlement pour prendre la mesure du climat et de la confusion dans le pays. Voici le portrait d'un militant travailliste de gauche qui regarde maintenant vers le parti du Brexit. Pour France Inter, Cécile de Kervas-Doué l'a rencontré à Stoke-on-Trent, dans les Midlands, la région qui est entre Londres et Liverpool. Ses propos sont amers, même si le cadre de la rencontre, lui, est tout doux.
Au bord du lac de Henley, Robert Ingleton profite de sa toute récente retraite. Il a fait toute sa carrière dans l'industrie de la poterie, avant de devoir prendre un petit boulot dans un supermarché lorsque toutes les usines sont parties en Asie. De quoi nourrir une profonde défiance face à la mondialisation chez ce militant de toujours du Parti travailliste.
Oui, j'ai voté pour le Brexit. J'ai toujours été militant travailliste, mais plus maintenant à cause de leur position sur le Brexit. La raison principale, c'est la question de la souveraineté. J'ai l'impression que nous votons des lois qui sont outrepassées par des décisions européennes. Mais chez mes amis travaillistes, c'est la principale motivation pour rester en Europe, les intérêts et les droits des travailleurs.
Longtemps syndicaliste, Robert Ingleton ne croit pas du tout que l'Europe puisse aider les citoyens de son pays. Et c'est pour cette raison qu'il se dit maintenant sympathisant du parti de Nigel Farage.
Ce type a lutté pour le Brexit pendant 20 ans, alors il donne une impression de cohérence et d'honnêteté, contrairement aux autres politiciens, comme Jeremy Corbyn, qui est devenu contre le Brexit après avoir été pour. Nigel Farage a raison, nous vivons dans un pays de Brexiters avec un parlement d'anti-Brexiteurs.
Vous le voulez pour Premier ministre ?
Je n'en suis pas certain.
Parce que, dit-il, il n'est pas du tout d'accord avec ses positions sur l'immigration.
Voilà pour ce reportage à Stoke-on-Trent, de l'Angleterre à l'Irlande du Nord. Un changement majeur, l'avortement est libéralisé et le mariage homo légalisé. Ça fait deux changements. Décision du Parlement de Londres qui a profité d'un vide politique à Belfast pour imposer ses réformes. Et nous ouvrons à présent une longue page consacrée à la santé dans ce journal. Et d'abord, droit de suite, après cette information dont on vous parlait la semaine dernière, le risque d'une crise sanitaire en Île-de-France cet hiver, mauvaise répartition des internes en médecine dans les hôpitaux de la région, et 13 hôpitaux risquaient de manquer de praticiens, les urgences pédiatriques risquaient d'être fermées au moment des épidémies de grippe, de gastro et de bronchiolite. Eh bien ce risque semble écarté, mais au prix d'une mesure exceptionnelle. Bonjour Arnaud Chalvon.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef du service de pédiatrie à l'hôpital de Marne-la-Vallée. C'est vous qu'on a entendu dans ce journal alerter sur le risque de crise sanitaire. En fait, beaucoup d'internes avaient choisi des hôpitaux de Paris et Petite Couronne et délaissé ceux de banlieues un peu plus lointaines. On va leur demander de refaire un choix, c'est bien ça ?
Absolument. L'ARS a pris la décision lundi suite à une erreur... Une interne qui s'est présentée au choix qui n'aurait pas dû se présenter, donc le choix est invalidé et on propose de refaire le choix lundi et mardi prochain.
On profite d'un petit vice de procédure pour demander de refaire un choix. Est-ce qu'on peut contraindre les internes à aller dans tel ou tel hôpital ? Le syndicat des internes râle déjà.
Alors, c'est clair que le problème initial, c'était un problème de mauvaise répartition des postes, puisqu'il y avait eu énormément d'ouvertures de postes sur l'Île-de-France, parce qu'on pensait qu'il y aurait beaucoup plus d'internes qui choisiraient la pédiatrie. Et il y avait eu 100 postes qui avaient été répartis avec des services qui avaient beaucoup plus de postes que prévu. Et du coup, les internes se sont concentrés à certains services aux dépens de certains autres. Donc ce qu'on souhaite avec le nouveau choix, c'est qu'il y ait une meilleure répartition, plus adaptée aux besoins des services, et également qui permettra aux internes d'avoir une formation qui soit opérante et adaptée. Mmh. Parce que quand vous êtes trop nombreux dans un service, la formation est de moins bonne qualité.
Bon, de votre point de vue, le risque que certains hôpitaux soient quasiment obligés de fermer les urgences pédiatriques est écarté à l'heure où on se parle ?
Pour l'instant, il est écarté. Il va y avoir probablement à l'issue du prochain choix quand même des hôpitaux qui ne seront pas pourvus. Mais on a peut-être des solutions alternatives avec des recrutements qui ne passent pas par des internes de médecine générale, qui permettra d'assurer la continuité des soins. Donc pour nous, c'est la moins mauvaise des solutions qui a été prise par l'ARS.
Bon, on va continuer de suivre ça, ARS comme agence régionale de santé. Merci docteur Chalvon d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions. Voilà pour les urgences pédiatriques à l'hôpital. Parlons des laboratoires d'analyse aussi, les labos privés, là où vous allez faire la prise de sang. Vous risquez de trouver porte close aujourd'hui, demain ou jeudi. Les labos en grève contre des mesures d'économie que leur demande le gouvernement dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Votre chronique santé chaque mardi, tout autre sujet, pas de prise de sang avec vous, mais une radio. Les journées francophones de la radiologie viennent de s'achever. C'est l'occasion de faire le point sur les avancées de cette discipline, discipline qui fait des progrès assez fulgurants, Daniel.
Oui, avec une évolution majeure dans l'imagerie. Alors imaginez, il y a quelques années, un radiologue derrière son écran, il lui regardait les os, le thorax. Aujourd'hui, il dépiste, diagnostique, traite. Le traitement, c'est ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle. Un exemple, la thérapie ciblé en cancérologie en visant directement la tumeur. Grâce à cette imagerie de plus en plus performante, il est possible aussi de déceler l'anatomie ultra fine en dessous du millimètre pour les coupes ou d'obtenir des données fonctionnelles comme par exemple avec une IRM du cerveau ou des données sur tissu. Explication avec le professeur Catherine Adamsbaum, elle est radiologue pédiatre à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.
C'est ce qu'on appelle les données paramétriques. Est-ce que le foie est suffisamment élastique ou est-ce qu'il est devenu dur ? Ça, on peut le dire. Et ça donne une indication médicale, absolument médicale.
Par exemple, un foie élastique ou dur, quelle est la différence ?
Un foie de fibrose ou un foie de cirrhose, il est beaucoup plus dur qu'un foie normal. Et dans certaines maladies, on va avoir finalement une cartographie anatomique, fonctionnelle, tissulaire, et on va pouvoir aider au diagnostic.
Alors un autre domaine où il y a des avancées, c'est la croissance des prématurés, Daniel.
Oui, avec l'étude des structures cérébrales chez le tout petit, des enfants qui ne pèsent parfois que 500 grammes et dont l'évolution doit être surveillée de très près.
Ces bébés peuvent naître dès 24 semaines. Ce sont des bébés qui apparemment peuvent être normaux, mais ils peuvent avoir un devenir neurologique qui n'est pas normal. On sait que certains d'entre eux vont avoir des difficultés d'apprentissage, etc. On essaye de le prédire en étudiant des cohortes de prématurés en IRM, les algorithmes qui vont maintenant progressivement s'intégrer dans la radiologie sont extrêmement importants parce qu'ils vont nous permettre d'analyser des grands nombres d'images, plusieurs milliers d'images du même enfant, de plusieurs enfants, de milliers d'enfants. Ça permet d'avoir des discussions éthiques pour savoir ce qu'on va faire de la poursuite des soins de cet enfant. Ça permet surtout de discuter avec les parents pour les informer sur ce qui peut potentiellement arriver.
Et c'est toutes ces informations précieuses que permettent donc aujourd'hui les nouveaux outils de radiologie. Encore faut-il, Bruno, que les radiologues soient assez nombreux pour les utiliser. Alors si globalement il n'y a pas de pénurie, ils sont un peu moins de 9000 sur tout le territoire, les disparités sont encore plus importantes que dans d'autres spécialités. Écoutez bien ces chiffres, 35 radiologues pour 100 000 habitants à Paris, à peine 3 dans le Jura.
Les urgences pédiatriques, les labos, la radio et un dernier lieu où on prend soin de notre santé, c'est dans l'Orne. Une maison des aidants vient d'être inaugurée à Flers. Des patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer y sont pris en charge et leurs proches sont également reçus pour souffler et parler entre eux. Marcelin Robine.
Au rez-de-chaussée de la maison, Gérard pédale sur un vélo particulier. Un décor est projeté devant ce retraité atteint d'Alzheimer, comme s'il avançait sur une voie verte. Et au milieu de la balade, il faut répondre à des questions de logique.
Ça fait travailler les genoux et puis le cerveau. Je trouve ça agréable. Bon, les questions, c'est un peu dur, mais il faut s'y faire. Hein.
Pendant que les malades enchaînent les activités, les aidants peuvent discuter et rencontrer des professionnels de santé à l'étage de la maison. Élodie Durand, neuropsychologue.
Retrouver un espace où ils peuvent partager, remarquer qu'ils ne sont pas tout seuls, rechercher peut-être d'autres familles, d'autres proches qui traversent les mêmes épisodes, qu'on peut s'en sortir et qu'on ne se sent pas jugé parce qu'on est plusieurs à vivre cette situation-là, même si ce n'est pas du tout autour de la même maladie ou du handicap, ça réconforte et c'est un besoin pour avancer.
La maison des aidants est ouverte à toutes les personnes qui assistent des proches dépendants. Et si elles veulent un week-end de répit, la structure peut prendre en charge les malades dans des chambres très spacieuses et adaptées. Viviane Briens, directrice de l'Union nationale de l'aide à domicile Boca Journée.
On souhaitait que ce ne soit pas un espace stigmatisant un peu, style l'hôpital, qu'on soit vraiment avec un décor. C'est pour ça qu'on a aménagé le décor comme dans un chez-soi.
Des activités et des formations sont aussi proposées aux aidants dans cette maison qui pourrait devenir un modèle pour d'autres projets en France.
Allez, la santé, c'est aussi le sport. Ces jours de Ligue des Champions au football pour le PSG, ça se passe en Belgique où nous retrouvons tout de suite en direct Cédric Guillou. Bonjour Cédric.
Bonjour Bruno.
21h, Paris joue sur le terrain de Bruges en espérant une troisième victoire en trois matchs. Un des Parisiens, Cédric, aura le cœur qui battra un peu plus vite que les autres. Thomas Meunier qui a découvert le haut niveau à Bruges.
Oui, exactement. Vous savez, quand vous suivez la saison du Paris Saint-Germain et notamment les déplacements européens du club parisien, vous avez l'habitude d'entendre des il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a Di Maria. Eh bien ici en Belgique, c'est il y a Thomas Meunier, l'international belge, 40 sélections hein, du Paris Saint-Germain. C'est d'autant plus le cas ici à Bruges puisque effectivement, c'est là où il a découvert le haut niveau. Avant cela, il avait été recalé du centre de formation du Standard de Liège. Il était même redescendu chez les amateurs, il enchaînait les petits boulots comme postier ou employé dans une entreprise d'assemblage automobile. Et donc Bruges va effectivement le révéler en 2011. 149 matchs en 5 saisons, 14 buts parce qu'il avait été recruté comme attaquant avant de glisser au poste de latéral droit. Thomas Meunier qui dit que les Belges viendront ce soir autant voir le PSG que Thomas Meunier. Il parle de lui à la troisième personne. Ce sera la première fois, Bruno, qu'il va jouer contre le club de Bruges depuis son départ vers le Paris Saint-Germain.
Merci Cédric Guillou. Coup d'envoi à 21h.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Et donc on le répète, Élodie Calac, attention aux orages.
Sur le Languedoc-Roussillon, les Cévennes et les Pyrénées, de fortes pluies et des orages violents au menu. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault en vigilance orange sont particulièrement exposées. Les quantités de pluie peuvent être très importantes en peu de temps. On attend aussi de la grêle, de violentes rafales de vent. Des débordements de cours d'eau sont possibles. Soyez très prudents, un regain d'activité est attendu la nuit prochaine avec un vent d'est parfois violent et de fortes vagues. Il pleut aussi sur un grand quart sud-ouest jusqu'au Massif central et à la Loire. En allant vers le nord et l'est, c'est calme, plutôt bien ensoleillé de la Bretagne au nord de la Seine et sur le flanc est. Il fait 13 degrés à Toulouse, 15 à Lille, Paris, Dinard, Metz et Bourges, 18 à Lyon et 30 degrés à Ajaccio.